travail entrepris par le OIA est complété par des initiatives de caractère politique ayant comme base les conclusions des visites faites récemment par l'OIA, les institutions interparlementaires musulmanes, l'Union parlementaire de la coopération musulmane. Et ceci démontre la coopération entre les deux organisations et qui nous fournit l'accord de coopération qui a commencé en 2005, ayant comme base le document signé en 2010, l'accord de coopération entre les pays africains et les législateurs européens signé en décembre. Le APM est en faveur de ceci et le premier objectif est la promotion de la culture, qui est un aspect essentiel. Et ceci résumé dans les recommandations de documents produits par la commission interreligieuse de l'APM sur le dialogue interreligieux. D'où tous les aspects de la coopération entre notre organisation et l'APM peuvent se trouver ayant comme but promouvoir la culture et la religion comme un point commun pour les deux organisations. Le secrétaire général, comme secrétaire général de l'OIA, nous reconnaissons que le moment est venu pour signer un MOU pour renforcer la coopération entre l'OIA et l'APM au point de vue institutionnel. Et ceci n'est qu'une formalité pour le début de ces relations. Et d'où les routes les voies pour cette coopération se renforcent et s'agrandissent. Et avant de terminer, je voudrais attirer votre attention vers les initiatives qui peuvent nous intéresser sur l'établissement d'un observatoire sur la persécution religieuse qui pourra être ayant comme but la paix religieuse. Et ceci, entrepris par l'OIA, ce sera une entité institutionnelle ayant comme but la prévention et l'élimination du phénomène de la persécution religieuse dans le monde en faisant la collecte de documents et de données sur la violence religieuse. Nous vous invitons de soutenir. Il sera utile pour nous tous si vous nous présentez vos points de vue, également vos préoccupations sur l'action de la coopération à entreprendre par cet observatoire sur la persécution religieuse et d'où une collaboration très utile. Merci. Merci. Merci aussi à M. Migdalis de l'OIA de venir à notre réunion aujourd'hui ici. Et nous attendons de signer un MOU et également promouvoir une réunion importante pour 2019. Et ceci parmi nos éléments de notre organisation. Et en tenant en considération qu'Oya est un important membre de l'organisation, et vous êtes vraiment en cœur des problèmes et des événements en Méditerranée. Merci, merci, et vous êtes invité également pour notre déjeuner plus tard aujourd'hui.
Permets-tu? Bon, je vais vous laisser continuer vos travaux. Et une fois de plus, je voudrais vous remercier de nous inviter ici et d'être parmi vous. Et je suis sûr qu'on aura une collaboration approfondie. Et j'aurai certainement l'opportunité de vous rencontrer au mois de février. Merci. On se verra au déjeuner. Chers collègues, après ce premier point à l'ordre du jour, nous allons commencer avec notre réunion du bureau à Lisbonne. Il y a un certain nombre de questions importantes, donc le travail de nos comités, de trois comités permanents, la réunion de la 35e réunion et aussi réunion entre nous et d'autres réunions de la région et les travaux au parler Spinola.
It's okay now.
Ça va maintenant? Comme j'ai dit, nous avons bien des choses à traiter aujourd'hui. Donc, dans cette séance plénière de Belgrade, la réunion de 5 plus 5, donc la réunion de Valletta à Malte, préparation de la des réunions avec d'autres organisations de la Méditerranée, donc aussi réunion au palais Spinola et finalement la gestion et les remarques financières par le secrétaire général. Maintenant, je donne la parole au président de nos trois comités permanents pour parler brièvement des aspects les plus importants et aussi des initiatives qui viendront en 2019. Maintenant, nous commençons avec le travail de notre première commission permanente et je passe la parole à Ali Bourin. Vous avez la parole.
Thank you very much, Mr. President.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. C'est très agréable d'être ici. Dans cette salle si belle, c'est un bon début pour le grand travail que nous allons conclure aujourd'hui. Je commencerai pour vous dire, comme vous avez tous vu dans le rapport de mi-année, on a été très productif en 2018. Alors, toutes les activités où nous avons participé, mais je vais vous parler des aspects les plus importants du travail de notre commission et des plans de travail pour l'avenir pour l'année 2019. Alors, on va se centrer sur zone de conflit et d'instabilité dans la région, notamment le processus de paix, la guerre civile en Libye et le conflit en Syrie, ainsi que nos soucis par rapport à la décision américaine. Nous avons aussi vu que la Turquie et l'Union européenne ont aussi durci leur discours entre communs. Alors, il y a eu aussi un climat de nouvelle guerre froide qui résulte de la déclaration du bannissement des traités nucléaires de la part des États-Unis et de la Russie. Alors ça difficulte nos relations futures. Nous avons un exemple de tout ceci, à quelques mois, avec l'aide de nos délégués de Palestine et Israël, qui ont en réponse à la demande d'assistance de la part des Nations Unies, et de même, dans PAM, l'APM a aussi aidé à libérer quelques otages en Syrie. Et l'APM a aussi continué d'être actif, donc participant activement dans plusieurs conférences sur la question à New York, Moscou et à Paris. Et nous avons commencé aussi à continuer le travail avec des partenaires clés, donc avec des agences de Nations Unies. Et l'APM s'est concentré aussi sur le rôle des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme et a défendu que les législations nationales doivent être en harmonie au niveau national et en ligne avec le Conseil et les résolutions du Conseil de sécurité. C'est nécessaire afin d'assurer l'interopérabilité de nos systèmes de sécurité et pour faciliter la coopération internationale pour combattre le terrorisme. Le dialogue politique a continué d'être dynamique et constructif au niveau de la diplomatie interparlementaire et l'APM. Et la participation d'APM à New York dans la région de Méditerranée. Nos délégués ont fait 3 observations de électorales en Bosnie-Herzégovine et à 2 autres. Et l'APM a participé à l'Assemblée générale aussi des Nations Unies où les délégués APM ont rencontré des leaders mondiaux. Et on parlait de beaucoup de sujets importants sur les affaires politiques. Et le département régionaux et le service ou le bureau de contre-terrorisme. Et pendant ces réunions bilatérales, les questions prioritaires ont été discutées en longueur et on a pu parler aussi d'une coopération future avec les Nations Unies et avec, donc on a finalisé quelques mémorandums de compréhension. Pendant nos réunions, nous, avec les chambres de l'IBM, on a été informé que beaucoup des terroristes qui sont présents en Syrie ont pu passer par certains pays ou régions d'Afrique où ils sont très actifs, pas seulement dans le Sahel, mais aussi dans la région de subsaharienne. Ça, c'est une menace pour la stabilité de la Méditerranée. La région méditerranéenne ça fait partie de notre travail de la sécurité et des mouvements de la population. Dans 2 semaines à Bruxelles, l'APM organise le premier séminaire sur la diplomatie parlementaire. Chers collègues, pour parler de ce qu'on va faire en 2019, le premier, le comité permanent aura eu à Malte, va parler du dialogue interméditerranéen et le 18 janvier 2019, on aura une première réunion et d'autres discussions sont déjà à l'ordre du jour et prévues. Au mois de février, l'APM va avoir sa 36e réunion du bureau et l'Assemblée, la 13e Assemblée en servie pour identifier un nombre de certains rapporteurs de l'APM qui va nous parler des résolutions sur les questions essentielles. Au mois d'avril, nous allons organiser avec le APM aussi une conférence sur le contre-terrorisme à Saint-Pétersbourg pour établir un nouveau rapport de travail sur le cybercrime. C'est une initiative qui aura trois phases. La première phase, c'est d'avoir un séminaire dédié pour les membres de l'APM à Strasbourg sur l'état de la mise en place de la Convention de Budapest sur le cybercrime et sur les politiques et la législation et l'application de la législation dans les différents pays. De juin, on aura un séminaire. Une autre phase a comme objectif pour les membres du Parlement. Et aussi, un séminaire d'évaluation sur les actions entreprises aura lieu dans un des parlements de l'APM au bout d'un an. Et en plus de ces initiatives avec le Conseil de l'Europe, nous avons organisé une réunion conjointe avec sur l'adoption de la Convention sur les migrations et la sécurité et le terrorisme dans la région méditerranée. On pense l'organiser en Turquie au mois de juin. Donc on prendra vos suggestions et vos commentaires sur le travail du premier de premier groupe de travail. Merci de votre mise à jour et de votre intervention sur les thèmes liés au travail de la première commission. Maintenant, nous pouvons poursuivre. Nous aurons la discussion. Maintenant, nous allons écouter le travail du deuxième commission permanente. Représentant du Maroc, vous avez la parole.
Merci, Président. Bonjour à toutes et à tous. En ce qui concerne les activités de la deuxième commission permanente de l'APM, vous avez déjà reçu le rapport préliminaire sur les activités menées au cours du premier semestre 2018. J'essaierai d'être bref en me concentrant sur les questions clés, malgré que par les temps qui courent, et compte tenu des défis socio-économiques de notre région, tout est finalement important. Et comme vous le savez, l'activité principale qui a déjà eu lieu au cours du second semestre a été l'organisation de la réunion conjointe aux coopérations avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a également été un succès en termes de participation, de contenu, de débat parlementaire et, le plus important, en termes de résultats concrets. L'adhésion à l'OMC des États membres est un instrument fondamental et utile pour faciliter les échanges et promouvoir l'efficacité des marchés, d'une concurrence loyale et des investissements. Les parlements membres des pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord de l'OMC ont été vivement encouragés à accélérer le processus de ratification. En ce qui concerne Belgrade, certains éléments supplémentaires doivent être pris en compte. Premièrement, notre partenariat avec l'OMC est fructueux et mutuellement avantageux. C'est-à-dire que l'APM donne à l'OMC accès aux décideurs politiques, mais en contrepartie, il faut en être très conscient, l'OMC nous apporte une expertise de haut niveau sur les priorités d'un secteur aussi important comme le commerce mondial. J'espère vraiment que ces recommandations seront prises en compte par les parlements nationaux. Et à cet égard, je vous invite à encourager au niveau national la commission compétente de chacun des parlements membres à analyser ce document très important. Deuxièmement, nous travaillons déjà avec l'OMC pour organiser les 3e et 4e conférences sur la facilitation du commerce et des investissements, afin de continuer ce que nous avons commencé à Rabat en 2017 et qui s'est poursuivi à Belgrade en juillet dernier. Ces deux nouvelles conférences auront lieu respectivement au Monténégro, en ce qui concerne les investissements structurels, et en Égypte, en ce qui concerne le rôle du secteur privé. Troisièmement, je tiens à remercier une nouvelle fois le Parlement serbe pour son organisation impeccable, mais surtout pour l'engagement que l'Assemblée nationale a démontré à l'égard de l'APM, engagement qui atteindra son apogée l'année prochaine avec la session plénière. Je remercie donc la Serbie, ainsi que notre vice-présidente, l'honorable Malitis, pour ses efforts personnels. L'APM continuera à travailler avec ses parlements membres et avec d'autres parlements internationaux, d'autres assemblées parlementaires, le pôle économique des Nations Unies, les institutions financières internationales, l'OCDE et bien entendu l'OMC pour promouvoir et soutenir les résultats de Rabat et de Belgrade, tout en gardant bien entendu à l'esprit son mandat et son objectif d'établir un espace économique euro-méditerranéen unifié, cohérent et harmonisé. Bien entendu, ce ne sont là que quelques-unes des recommandations issues de la conférence de Rabat. Mais en ce qui concerne la deuxième commission permanente, l'APM a participé à d'autres manifestations organisées par des partenaires, à savoir le deuxième forum parlementaire mondial sur le développement durable, qui nous a permis de créer un nouveau partenariat, ouvrant ainsi les portes à de nombreux parlements du monde entier. Les assemblées annuelles 2018 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, au cours desquelles l'APM a fait entendre la voix des parlements méditerranéens au sein de l'un des forums parlementaires les plus inclusifs sur l'économie, et l'APM y participe et contribue régulièrement. Le Forum mondial de l'investissement de 2018, organisé par la CNUSED, il s'agit du forum le plus important au niveau mondial. Encore une fois, une nouvelle activité à laquelle l'APM a été invitée à contribuer pour la première fois grâce au degré de reconnaissance atteint par notre Assemblée et qui lui a permis d'accéder directement à une nouvelle gamme d'investisseurs et d'institutions internationales. Une excellente occasion d'étendre notre réseau et d'examiner les défis économiques sous un angle différent. En outre, et c'est très important, à la suite de la réunion de Belgrade, l'OCDE a décidé d'établir une coopération structurée avec notre Assemblée. Il découvre en réalité un peu notre Assemblée. Notre secrétaire général ainsi que l'un de nos conseillers principaux ont tenu une réunion stratégique avec eux il y a à peine 4 jours. Et notre secrétaire général pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure. Jusqu'à la fin de l'année, certaines activités importantes sont encore prévues. Réunion conjointe du plénum parlementaire de l'APM et de la communauté de l'énergie. C'est l'un des nombreux résultats de notre réunion de Belgrade et je voudrais solliciter votre soutien afin d'assurer la représentation de votre Parlement. Il y aura une session conjointe dédiée à la législation sur les énergies renouvelables qui verra la participation active de tous les parlementaires de l'APM qui y participeront. L'événement aura lieu à Skopje les 27 et 28 novembre. Il y aura la COP 24, c'est l'un de nos rendez-vous annuels. Et comme vous le savez, l'APM est observateur à la COP. Et chaque année, nous participons et contribuons au segment de haut niveau de la Réunion. Pour votre information, il reste encore deux places disponibles pour les délégués de l'APM. Et la date limite d'inscription est le 10 novembre. Si cela vous intéresse, vous êtes priés de vous rapprocher du secrétariat de l'APM aujourd'hui même, car le processus d'inscription étant très complexe, l'événement aura lieu, pour rappel, du 2 au 14 décembre à Katowice, en Pologne. Vous devriez avoir reçu toutes les informations pertinentes pour ces deux événements, ces deux derniers événements que j'ai cités. Et je suis sûr que le personnel du secrétariat, qui est remercié pour l'occasion, pour tous ses efforts, fera un plaisir de vous fournir davantage d'informations si vous en avez besoin. Chers collègues, c'est ce que nous avons fait et nous prévoyons de faire jusqu'à la fin de l'année. Je vous remercie.
Merci bien, Lou. Merci pour l'ajournement sur les interventions et les questions du travail de la deuxième commission. Now we can move to our third standing committee.
Maintenant, nous passons à la troisième commission et je passe la parole à Alexander Margaritz.
Bonjour à tous et à toutes. La première chose que j'ai à dire, c'est de remercier le Parlement portugais de l'hospitalité pendant ces deux jours. Et j'aimerais utiliser cette opportunité de vous remercier à tous et à toutes de vos mots concernant la réunion en Serbie, organisée par la Serbie, et aussi... je suis particulièrement heureuse avec les conclusions des rapports de la région euro-méditerranéenne et aussi des initiatives qui ont été prises. C'est avec un grand plaisir d'avoir cette conférence et j'aimerais aussi vous donner la bienvenue lors de la prochaine séance plénière qui sera organisée au mois de février à Belgrade. En ce qui concerne les activités du troisième commission permanente, on s'est concentré sur l'immigration, droits humains, dialogue interreligieux, patrimoine culturel et questions de genre. Ce sont des sujets essentiels à l'ordre du jour. Et la question de l'immigration en tant que phénomène mondial, c'est très engageant et c'est très important pour nous. Pour avoir un système de migration ordonnée et réglementée. Et nous aurons aussi une réunion dédiée avec les Nations Unies pour l'adoption d'un pacte global pour les migrations. Et nous avons été conviés à participer en tant qu'observateur permanent à l'Assemblée générale et nous coordonnons avec l'Assemblée de la Turquie pour le travail sur les challenges à la sécurité afin de garantir le follow-up, le suivi du pacte des Nations Unies par les États membres. Et nous continuons de promouvoir notre partenariat avec l'OIM et en ce qui concerne les droits de l'homme, nous avons établi une liaison très solide avec les droits. Et alors nous avons contribué aussi pour le rapport pour améliorer la coopération entre les parlements nationaux et internationaux et le rôle des conseils de droits de l'homme. Et nous avons aussi déterminé quelle serait la route à suivre pour faire suivre les politiques nationales en engageant tous les acteurs essentiels, les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Et nous sommes en train de terminer un texte de l'accord international. Il y aura aussi une réunion sur les droits de l'homme. Et en plus, encore ce mois-ci, nous allons participer à la deuxième séance sur les droits de l'homme à Genève. On essaye d'établir la conscience de tous les participants pour avoir un dialogue et pour identifier les meilleures pratiques et garantir le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit les frontières nationales. En plus, la prochaine réunion sera pour traduire des documents en français et en arabe. Chers collègues, comme vous savez, l'extrémisme et la xénophobie, c'est un des défis les plus critiques devant nous. Et alors, nous continuons de soutenir le dialogue interreligieux et interculturel. Depuis, nous allons contribuer au forum du mois de novembre pour réitérer nos questions. En plus, j'aimerais vous informer que le gouvernement de l'Italie a mis en place l'accord atteint avec le Royaume du Maroc et à l'occasion de la visite en Maroc de notre délégation APM et en préparant la réunion du forum 5+5. Et alors, en plus, comme vous l'avez entendu déjà ce matin, on a commencé à coopérer avec la réunion de chrétienne orthodoxe et organiser aussi la protection de l'héritage culturel est pour nous aussi très important pour le travail de l'APM. Et on va organiser des ateliers sur les régions méditerranéennes. Et en plus, un professeur espagnol a rejoint notre plateforme et on va organiser une conférence dédiée à ce sujet. Et en dernier, notre comité est aussi très actif, étant donné qu'on est très engagé pour les questions d'égalité de genre. Et on essaye une coopération avec les groupes de femmes qui a commencé l'année passée. Et notre délégation à New York a contribué aussi à beaucoup d'événements sur les questions de genre. Et nous voulons continuer ce travail et nous aimerions écouter vos commentaires. Merci Alexandra et merci de votre mise à jour et spécialement à vous et au Parlement serbe de votre soutien sur les activités RPM et notamment d'aller recevoir notre séance plénière. Donc nous avons eu les présentations des trois commissions permanentes et maintenant je demanderai qui veut prendre la parole afin de faire des remarques ou de poser des questions.
Palestine, you have the floor.
صباح الخير للجميع وشكرا للبرتغال.
Bonjour. Je voudrais vous remercier tout particulièrement le Parlement portugais pour votre accueil. Et également, j'aimerais remercier les collègues de ces commissions permanentes. Merci pour ces présentations sur les activités entreprises par ces commissions. Nos commissions ont comme but la convergence, approcher nos points de vue. Dernièrement, il y a des événements très importants qui ont eu lieu, notamment aux États-Unis sous la présidence de président Trump. Depuis 10 ans, nous avons réussi établir une bonne entente et Trump a comme un but de tout détruire. Ceci n'est pas adéquat à un pays comme le pays des États-Unis. Le fait de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et l'ambassade des États-Unis établie à Jérusalem en est un exemple. Par exemple, Jésus-Christ était le premier Palestinien, un homme juste, Jésus-Christ. Et Trump souhaite éliminer l'Église de Jérusalem, annuler le financement au comité responsable des réfugiés palestiniens. Nous avons des personnes qui ont même 90 ans qui sont des réfugiés. Je remercie Madame Bourane d'avoir souligné que notre Assemblée travaille pour les deux États. Et les droits des réfugiés doivent être pris en compte. Que fait les États-Unis? Ils renforcent la possibilité de la violence et renforcent les gouvernements de droite. Nous souhaitons une réunion, une assemblée politique parlementaire pour débattre ce qui se passe en Palestine, l'occupation d'Israël en Palestine, tout anéanti. Et nous devons anéantir cette occupation. Et je vous dis ceci au point de vue politique et également au point de vue économique. Notre Assemblée a un très important rôle à jouer, pas seulement au point de vue politique, mais économique et pour le commerce entre nos pays de la Méditerranée. Également, au point de vue culturel, nous avons un important rôle à jouer. Merci. Merci pour votre intervention. Bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais vous remercier et remercier notre président, l'invitation qui nous a faite pour pouvoir nous réunir dans ce très si beau établissement qui est le Parlement du Portugal. J'aimerais répondre à mon collègue de la délégation de Palestine. Nous savons que en Israël, nous avons plusieurs problèmes au point de vue politique pour les citoyens. Il y a des citoyens qui votaient droite et maintenant gauche, maintenant droite. Je viens de la paix. Il faut établir un pays indépendant palestinien, indépendant d'Israël. Nous souhaitons pouvoir obtenir ceci pour tous les peuples afin que nous puissions vivre à côté les uns des autres, entreprendre plusieurs actions conjointes. Et je reconnais que plusieurs questions que mon collègue vient de présenter ici pour ce qui est la Jérusalem, et lorsque nous arriverons à un accord final, nous pourrons débattre toutes ces questions. Nous attendons bien naturellement que toute cette situation et ce problème puissent s'améliorer. La décision du président des États-Unis est une question que nous pourrons, je l'espère bien, débattre avec lui-même. Et lui, il veut réagir car il considère cette question qui le mène à ses décisions qu'il vient de récemment de prendre, mais nous espérons de pouvoir arriver à une meilleure façon de considérer cette situation actuelle. Comme vous savez, j'habite à Guérot. Guérot est une ville où j'ai commencé ma vie politique. J'ai été maire de cette ville. Elle se trouve à côté de la frontière de Gaza. C'est justement la première ville que nous trouvons après la frontière. Les premiers missiles sont tombés justement sur notre ville de Guérot. Ce n'est pas facile de préserver cette situation, mais nous espérons que dans l'avenir, cette situation à l'échelle internationale et face à Israël puisse être mieux résolue. Je suis contre les décisions, la masse, mais nous savons que même le peuple palestinien lui-même, il a des questions que nous pouvons pas ignorer. J'espère que la question essentielle pour à mon sens et comme membre du Parlement, nous espérons bien qu'un jour on puisse modifier cette ordre du jour d'événement en Israël. Dans cette situation que nous vivons maintenant, j'espère bien que la FM puisse aider à une meilleure entente et peut-être l'APM pourra être le moteur responsable. Nous pouvons voir qui peut remplacer Laura. Et nous espérons que bientôt nous pourrons envisager des accords de paix. Merci. Je voudrais vous dire que pour ce qui est de l'APM, ces interventions sont très, très importantes pour nous. Pour ce qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies, résoudre cette dispute entre la Palestine et Israël. Merci, Président. Pour nous recevoir dans ce Parlement portugais.
Je peux vous dire que lorsque nous sommes ici et nous essayons de voir ce que nous avons accompli l'année passée, surtout dans plusieurs domaines, hein, et grâce aux commissions, et surtout j'aimerais vous remercier aussi de l'occasion, de l'opportunité de m'avoir donné la possibilité de parler des femmes druzes aux Nations Unies et l'attitude de l'APM d'analyser cette question dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela nous a aidé à libérer une partie des otages. Nous avons encore 20 une femme et enfant qui sont otages avec ISIS en Syrie et qui souffrent beaucoup. Espérons que avec l'aide de l'APM et que nous arriverons à les libérer tous et toutes. Merci. Merci. Nous n'avons pas d'autres interventions pour le moment, donc je donne la parole au président, à la présidence des comités, une troisième commission, pour commenter. Merci, monsieur le président. J'aimerais ajouter un point et dire que c'est étonnant, mais aussi très positif, lorsqu'on regarde la position politique de la délégation palestinienne et israélienne sur la vision commune pour l'avenir et la solution des deux États est la seule voie à suivre basée sur les principes a déjà atteints et comme étant Jérusalem la capitale des deux régions, des deux États. Et nous pensons ces négociations, c'est quelque chose vraiment qui nous tient vraiment à cœur et nous voulons participer au maximum le moment venu. La situation en Syrie continue extrêmement volatile et extrêmement dangereuse et j'aimerais vous dire que le passage entre la Jordanie et la Syrie est maintenant ouvert. beaucoup de produits agricoles circulent maintenant et beaucoup de marchands jordaniens et certains Syriens aussi passent la frontière dans les deux sens. Et nous sommes extrêmement conscients de la situation politique et de la situation de la sécurité en Syrie. Les poches de ISIS sont toujours là encore. Nous l'avons dit souvent que ces poches ont été détruites, mais sont pas complètement à l'extérieur. Parce qu'il y a toujours une idéologie des haines qui est une activité criminelle. Alors, ce dossier, c'est un sujet extrêmement important qu'il faut discuter toujours. Honorable, c'était très important. Et j'aimerais aussi dire que dans les derniers mois, nous n'avons rien fait en Jordanie, mais nous avons fait un effort international qui est 100% pour avoir des fonds pour aider la région en péril. Et nous avons parlé toujours de UNRWA et l'association des Palestiniens. Alors, maintenant, nous avons 122 millions pour l'UNRWA. C'est en déficit, mais ça aide beaucoup. Et grâce au pays de l'Union européenne pour le soutien, c'est vraiment un sujet très important.
Thank you very much, Alia.
Si, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention concernant les autres commissions permanentes. Cela étant, nous avançons maintenant. Nous allons passer à un nombre de questions, notamment les préparatifs en vue de la 13e session plénière à Belgrade. Donc aussi les préparatifs pour la réunion du forum 5+5, l'interaction avec la PM et d'autres parlements de la région euro-méditerranéenne, aussi la mise à jour sur les travaux de consolidation au palais Spinola, et finalement les opérations en cours pour les bureaux régionaux de l'APM. Merci, Monsieur le Président, et merci aussi au Portugal pour le chef de la délégation portugaise d'accueillir notre réunion. Merci à tous et à toutes. Comme vous le savez, les bureaux APM sont très importants, c'est le corps politique de notre travail, et une fois de plus, je dirais quelque chose qui est très important pour un point à venir, qui est l'importance d'être parmi nous, les Palestiniens d'Israël. Et avant de passer au travail de la réunion, de la 13e réunion plénière, j'aimerais dire que chers amis, honorables membres, j'aimerais vous saluer de tout ce que vous avez fait pour aider l'APM. Il y avait un besoin de médicaments pour Gaza et l'UNSCO a facilité la venue de ces médicaments. Donc, j'aimerais donc remercier ces messieurs nous avons rencontré l'UNSCO et sont venus à la Knesset, et avec votre aide, les médicaments ont atteint la région de Gaza pour soigner les malades qui sont à l'hôpital. Et notre collègue de la Knesset a dit si les médicaments sont très urgents et s'il y a un retard, alors nous sommes prêts à aider. Alors merci beaucoup à Pilal et à Amir et à Machali. Et d'autres choses que Machali a mentionné avant d'être engagé dans des opérations diplomatiques, c'est concernant les Druzes. Vous savez, la ISIS a attaqué un village druze dans la, près de la frontière Syrie et tué 200 personnes et ont pris un certain nombre d'otages avec l'aide et avec, en coordination avec notre point focal russe et avec la, et le mouvement de maintien de la paix des Nations Unies, nous avons pu exercer assez de pression pour qu'un certain nombre d'otages aient été libérés. Et nous continuons notre action, car vous savez qu'il y a encore une vingtaine de civils qui sont otages. Et vous savez que l'ISIS se sert de la population civile pour se protéger eux-mêmes. Qu'est-ce qui est important lorsque je parle d'ISIS? C'est ce que le sénateur a dit sur l'Afrique. Nous étions choqués lorsque le représentant des Nations Unies pour le Sahel a dit qu'un grand nombre d'ISIS, de terroristes ISIS, vont en direction de l'Afghanistan ou vers l'Afrique. Et ils partent donc en passant par des passages qui sont sous l'accord des grandes puissances. Et alors que la Syrie irakienne est assez contenue et il y a des alliances militaires et un gouvernement qui ont le pouvoir de lutter contre l'ISIS, cela n'existe pas en Afrique. Alors les gens vont en Libye, s'achètent des armes en Libye et de là ils s'en vont au Mali, Niger, et alors ils vont jusqu'au Mozambique, aussi loin vers le sud que le Mozambique. Alors c'est beaucoup plus difficile, car ils acquièrent des structures militaires qui ne sont pas comparables avec... Alors vous pouvez imaginer que ce sera très difficile de lutter l'ISIS en Afrique, qui peut obliger les gens à quitter la région, et en augmentant le phénomène migratoire en Afrique et par le monde, donc vers le nord de l'Afrique, Moyen-Orient, Europe, ou des pays comme le Maroc, qui maintenant reçoivent aussi des migrants, ce ne sont plus des pays de transition. C'est quelque chose donc qui mérite l'attention de notre première commission et en même temps la question des droits de l'homme et des individus qui sont en mouvance donc sous le...
Une autre question importante, telle que vous avez en parlé. J'ai eu une réunion avec le commissaire et ils essayent de diversifier les sources de financement, car le seul était les États-Unis, au point de vue financier, et ils essayent d'en trouver d'autres alternatives. Vous avez fait mention à Libye plusieurs fois. L'Italie a perdu le 12 novembre la réunion à Palerme. Et ce qui se passe, c'est que à New York, nous avons eu l'opportunité de nous réunir avec le ministre des Affaires étrangères de Libye, et les perspectives ne sont pas, n'y étaient pas. Alors Palerme, ce sera une bonne opportunité pour l'introduire dans l'ordre du jour des priorités de la communauté internationale. Étant donné qu'il n'y a pas d'indication pour des élections à court terme. Voici un autre pays qui affecte l'APM et le Yémen, qui est justement un désastre à l'heure actuelle. Et nous pouvons considérer les actions de l'APM afin de pouvoir agir au point de vue de l'aide humanitaire dans ce pays. Et ce qui est intéressant, c'est le rapprochement à notre assemblée, car puis-je poursuivre? Demande le président. Donc, il s'agit d'une autre question à laquelle nous devons nous occuper. Et l'élection au Liban, nous avons une nouvelle délégation parmi nous. Et le même pour le Parlement italien, il y en a une nouvelle délégation et nous allons les accueillir bientôt. Préparation pour la réunion de Belgrade le 21-22 février. Il s'agit d'une réunion importante étant donné qu'il s'agit d'un moment très important pour la région géo-méditerranéenne. Donc, le moment est venu pour l'Assemblée s'occuper de ce qui se passe et également pour pouvoir répondre aux enjeux politiques auxquels nous faisons face. En Serbie, alors, notre réunion, l'Assemblée générale, il y aura la réunion de bureau et les groupes géopolitiques vont se réunir dans l'Assemblée et il y aura une rotation. Comme vous savez, tous les deux ans, il y a une élection de bureau et après cette réunion, je enverrai le message formel aux États membres pour cette décision. Nous avons reçu déjà deux nominations pour ce qui est la présidence de l'APM et le Parlement de la Jordanie a attiré notre attention vers la candidature de sénateur palestinien. Il y a également la proposition d'Algérie pour la vice-présidence. Et je voudrais vous communiquer les excuses. L'Algérie ne peut pas être ici présente aujourd'hui, étant donné qu'il y a une crise politique en Algérie. Et c'est la raison pour laquelle le sénateur n'a pas pu venir voyager. Ceci est d'une importance extrême. Et je voudrais vous rappeler qu'un des piliers de l'APM, du bureau, est la présence de Palestine et l'Israël chez l'APM. Et voici le meilleur avenir de notre organisation, c'est qu'il y a, c'est possible la discussion et votre présence également à New York lors de l'Assemblée générale sera appréciée par tous et par les collègues d'autres pays. Et votre présence ici, telle que nous permet de faire une facile coordination avec vos parlements. Et c'est la raison pour laquelle il faut vous rappeler qu'au-delà des activités pratiques, il y a toujours sur la table l'invitation de la Jordanie pour la réunion des parlementaires et afin qu'on puisse organiser une réunion des responsables politiques et parlementaires. Il s'agit d'une caractéristique de l'APM. Les parlementaires démontrent que le dialogue est possible de se faire.
Nous allons également vous contacter parce que nous avons besoin donc un certain nombre de rapporteurs, ceux qui vont introduire et présenter le rapport ainsi que la résolution préliminaire, parce que de nombreux rapporteurs de l'année précédente ne sont plus membres de l'APM. Nous devons donc trouver un nombre de rapporteurs qui connaissent les sujets et qui seront en mesure de présenter leur rapport ainsi que la résolution préliminaire. Dernière chose, grâce à la Grèce, et merci à la Grèce et au Parlement grec qui m'ont contacté et nous ont informé qu'ils allaient accueillir la session parlementaire de l'APM en 2019, qui est une information très précieuse. Je vais donc vous contacter, vous tous, un par un, afin de préparer cette Assemblée générale à Belgrade. Voilà donc l'information que j'ai. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant la préparation de cette session plénière. S'il n'y a pas de questions, le 5 plus 5, comme vous le savez peut-être, pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux autour de cette table, en 2012, il y a eu le forum ministériel du groupe 5 plus 5 qui a précédé le sommet de Malte. Et c'était très important. Le processus a été lancé, encore une fois, parce que à l'époque, les gouvernements des 10 pays de la Méditerranée occidentale considéraient que le processus de Barcelone ne fonctionnait pas. Et donc, l'Union pour la Méditerranée était trop vaste et n'avait pas vraiment de mission ou de mandat en ce qui concerne les questions de sécurité. C'est donc une demande que l'APM serve de soutien à travers son secrétariat et de donner cette dimension, ce que nous avons fait déjà avec un grand plaisir. Cela a été noté aussi lors du sommet de Malte par les chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit ici d'une question clé. Il y a eu aussi une réunion le 2 novembre à La Valette, au Parlement, où l'un de nos collègues, de nos conseillers, a participé avec M. Michael du Parlement maltais, et l'indication est que la réunion est confirmée donc à 99% pour le 17. Ils attendent une confirmation finale de la part du ministère des Affaires extérieures, des Affaires étrangères d'Algérie. C'est ce que nous a fait savoir donc le ministère de Malte. La réunion sera présidée par M. Angelo Farrugio de Malte, et donc il y aura un discours d'ouverture. Le président Farrugia a signé aussi la lettre d'invitation comme par le passé, et nous avons une longue liste si vous voulez. On pourra vous aider en ce qui concerne la traduction des documents vers le français et l'arabe. Le 17, donc, il y aura cette réunion parlementaire. Le 18, ce sera la réunion ministérielle, comme par le passé. Le bureau du président Farrugia va assurer que M. Farrugia lui-même, président Roch, et moi-même serons en mesure d'être présents à cette réunion, et que nous allons contribuer aussi avec le message du Parlement. Nous ne sommes pas en mesure de finaliser le programme parce que nous attendons les ministres. Le programme est similaire, le programme ministériel, l'agenda, le programme parlementaire, et ensuite on pourra donc avancer avec les recommandations. C'est ce qui a été dit lors de la réunion de La Valette le 2 novembre. Et maintenant, nous attendons les retours. Je ne sais pas si vous avez des informations additionnelles à ce sujet. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être ici, dans ce lieu magnifique. Merci beaucoup pour cette hospitalité. Je voulais juste ajouter quelque chose. En ce qui concerne le programme, les sujets doivent être encore confirmés. Nous avons envoyé déjà des invitations. La date est donc confirmée. Je peux dire aussi que les questions à l'ordre du jour sont les questions qui seront traitées lors de la réunion ministérielle. Et nous allons aussi, bien sûr, ajouter ces conclusions pratiques juste avant les fêtes de Noël. Nos organisations sont déjà en cours pour, par exemple, réserver les salles, etc. Voilà, merci. Et nous allons, bien sûr, garder ces informations et les transmettre. Et bien sûr, il y aura le Parlement européen. Parmi les invités, il y aura le Conseil consultatif du Maghreb, qui sont également invités. C'est la routine. Nous allons bien sûr faire circuler les noms et ensuite l'équivalent parlementaire. Voilà donc ce qui... Et le troisième point, Monsieur le Président, et c'est l'interaction avec l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Pourquoi ce point est si important? Le président Roch et moi-même, nous étions au Caire il y a 2 mois. Parce que lorsque l'Union pour la Méditerranée a été lancée en tant que proposition, donc sous la proposition du président Sarkozy, et je vous donne un petit peu le contexte. Et l'idée était que l'APM soit la dimension parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Ensuite, il y a une discussion en France, en Allemagne, et l'Union pour la Méditerranée est devenue, bon, enfin, en anglais, l'Union de la Méditerranée est devenue l'Union pour la Méditerranée en version anglaise. Et donc, voilà, les assemblées parlementaires sont membres. Et il y a eu l'Assemblée parlementaire qui n'a jamais eu de vraie structure, mais il y a eu le pays et la présidence rotative a été inaugurée. Et la fonction coordonnatrice était dans le bureau du président du Parlement européen. Cette Assemblée n'a vraiment jamais démarré et cela... il y a des rapports de la part du Parlement européen disant qu'il y a eu un taux de participation très faible, de moins de 40%, et aussi l'ordre du jour, parce que c'était trop vaste. Si vous voulez, par exemple, de la Mauritanie jusqu'à la Suède, avec un poids exceptionnel en ce qui concerne la représentation des pays du Nord, et du centre, qui a une attitude complètement différente que les pays du sud de la Méditerranée ou du sud tout court. Donc les élections en Italie aussi, il y a eu une proposition par le maire de Rome pour accueillir à Rome un secrétariat pour l'Assemblée parlementaire de l'UPM. Cette question a été discutée au Caire. Nous étions présents aussi en tant que délégation de l'APM et ils se sont mis d'accord pour établir à Rome un petit secrétariat général pour une assemblée parlementaire pour l'UPM. Certains d'entre vous, peut-être vous rappelez-vous, lorsque le président Schulz était le président de l'Union européenne, il y a eu une proposition de la part de Bruxelles et aussi de la présidence à l'époque du Maroc de fusionner ces deux, l'APM avec l'Assemblée de l'Union pour la Méditerranée. À cette époque, notre Assemblée avait dit que c'était précoce, c'était prématuré, nous savons qu'ils avaient énormément de problèmes, mais en fait, ce qu'on a proposé, et beaucoup de pays ont d'ailleurs soutenu cette proposition, c'était d'avoir un secrétariat pour les deux assemblées. Comme cela, il peut y avoir une complémentarité au niveau des activités, éventuellement une harmonisation aussi de l'ordre du jour, des programmes. Et ceci est maintenant quelque chose qui est de leur ressort. La balle est dans leur camp. Nous sommes prêts à contribuer et à assister. Nous savons qu'il y aura également une réunion en mars, en avril peut-être, je pense, où on discutera lors de la session plénière avec leur bureau aussi. Nous n'avons pas d'informations concrètes là-dessus pour l'instant. Nous croyons que, bon, bien sûr, il y a des retards parce qu'il y a bien sûr les élections européennes. Et donc, cela tombe en même temps, en mai 2019. Donc, nous ne savons pas s'il y a des nouveautés, mais s'il y a des nouveautés, nous vous en informerons. C'est ce qui se passe maintenant avec l'Assemblée de l'Union pour la Méditerranée. Mais c'est important que vous sachiez cela. Pourquoi ? Parce que si cette Assemblée est appelée à avoir un secrétariat permanent, fonctionnel et fonctionnant, et ça veut dire qu'ils auront un budget conséquent. Et là, vous pourrez avoir des problèmes pour payer, certains pays pourront avoir des problèmes pour payer leurs cotisations. C'est pour cela que l'APM a dit que ce serait mieux d'avoir un seul secrétariat. Si la Jordanie et Malte ont déjà payé leurs cotisations, eh bien, il ne faudra pas payer votre nouvelle cotisation, un nouveau quota. Et ça aussi, c'est bon d'un point de vue pratique. Mais nous n'avons pas d'autres informations par rapport à cela. C'est la situation pour l'instant. Nous suivons cette situation activement et nous allons informer le prochain bureau s'il y a des changements ou de nouvelles informations. Donc voilà la situation pour l'instant. En ce qui concerne l'autre Parlement, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout cela. L'Union pour la Méditerranée. Lourd Marbourg.
Je voudrais d'abord revenir sur le 5 plus 5. C'est vrai que les sujets à aborder ne sont pas encore peut-être définis, mais compte tenu de la situation qui perdure dans notre région, j'émets un souhait que deux sujets importants soient abordés d'une manière ou d'une autre, sous un angle ou sous un autre, mais qu'ils soient clairement abordés. C'est évidemment la Libye et les foyers de tension qui génèrent tous les maux de la Méditerranée que nous connaissons, de l'immigration au terrorisme et j'en passe. Mettre l'accent sur ce que j'ai toujours appelé la proximité immédiate de la Méditerranée, qui est le Sahel et l'Afrique subsaharienne. Vous parliez de la mobilité des terroristes tout à l'heure. Je le confirme qu'il y a une mobilité très aisée dans ces vastes espaces des pays d'Afrique du Nord et surtout de l'Afrique subsaharienne, et que donc le 5 plus 5 méditerranéen est concerné au premier chef, et ça doit être une préoccupation. Les formes après, bon, ça se discute, comment aider, comment contribuer à lutter contre ce fléau très important. Et l'une des recommandations que nous avons toujours discutées donc, au niveau de notre Assemblée, c'est qu'il faut coopération, collaboration, une coordination pour pouvoir lutter contre tous ces fléaux, à la fois le terrorisme et l'immigration clandestine. Et tout cela ne peut aussi se faire d'une façon efficace si on n'a pas une meilleure intégration économique. Pour ce qui est de la PM-UPM, c'est un vieux sujet, mais qui est toujours d'actualité. Sur le plan purement technique et sur le plan de la recherche d'une synergie entre les deux assemblées, qui théoriquement sont concernés par le même espace géographique Il est évident qu'un secrétariat unifié ne peut être qu'une excellente chose dans le cadre de la synergie, la convergence des actions et aussi la rationalisation des budgets et des dépenses. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le problème, et nous l'avons vécu à plusieurs stations et à plusieurs reprises, le problème reste politique. L'Union pour la Méditerranée comprend les pays riverains de la Méditerranée et un bloc des pays du Nord. Et l'APM comprend bien évidemment les pays riverains de la Méditerranée. Et toute la problématique est la position du centre de gravité dans tout cela. Et nous avons vécu des exemples, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, aller vers une synergie, moi je suis parfaitement d'accord parce que ça ne permet que rationaliser, ça permet aussi de rapprocher. Ça permet de rapprocher les deux institutions pour essayer de faire converger les choses, mais j'attire l'attention sur le fait politique ou géopolitique parce que l'espace des pays concernés est du fait à rendre le centre de gravité des intérêts un petit peu différent. Merci.
From who exactly are we awaiting an answer?
De qui exactement est-ce que nous attendons une réponse? Alors, l'Assemblée parlementaire, l'UPM, est dirigée par trois pays. Et pour l'instant, ce sont des pays européens, des parlements européens dans deux pays. Et ils ont un système de prise de décision au Caire. Lorsque l'Égypte a transféré la présidence à l'Union européenne ou passé la présidence à l'Union européenne, ils ont voté l'établissement du secrétariat. Ils ont choisi Rome pour cela. C'est le processus. Maintenant, il y a une fluidité, une situation fluide, et nous attendons aussi parce que, sincèrement, peut-être que vous pouvez aussi nous aider là-dessus. Quel est le processus décisionnel chez l'UPM et l'Assemblée parlementaire? Parce que si le bureau... Est-ce que le bureau a l'autorité de décider? Ou est-ce que le bureau ne fait que formuler les recommandations à l'Assemblée générale? Nous ne le savons pas. Mais apparemment, même pour eux, ce n'est pas clair lorsqu'on leur a posé la question. La personne qui est membre du Parlement européen, qui est rapporteur concernant le processus de l'établissement de ce secrétariat. Donc, comme vous le comprenez, cela crée de nombreuses questions. Et j'espère que je pourrai répondre aux collègues de la délégation serbe. Il y a quelques années, on a créé l'Assemblée parlementaire de l'Europe du Sud-Est qui va de Slovénie jusqu'en Turquie. Et il y a 12 pays donc recouverts par cela. Et le processus maintenant s'est ralenti. Mais ils ont décidé d'établir un secrétariat. Le secrétariat n'a jamais été établi. Et ce sont des mêmes pays, les pays de l'APM, excepté la Bulgarie et la Moldavie. Et nous leur avons dit, si vous voulez, c'est un petit peu comme les 5 plus 5. L'APM est prête à être votre secrétariat pour une conférence par année, assurer une conférence par année gratuitement. Mais ne mettez pas des pays tels que l'ancienne République, l'ex-République Yougoslavie de Macédoine, parce qu'ils ne peuvent pas payer une grosse contribution pour quelque chose qui peut être fait par un autre pays gratuitement. Avec toute l'autonomie de cette assemblée de l'Europe du Sud. Je sais qu'il y a eu certaines discussions entre la Turquie et la Bulgarie par rapport à qui devrait être assuré le secrétariat général, où allons-nous mettre le bureau, etc. Mais par rapport à tout cela dépend du budget des parlements nationaux. On a dit à l'APM si... C'est un problème pour vous. L'APM est prêt à vous donner ce soutien pour une conférence et ce, sans frais. Voilà donc la question. Et en parlant des autres assemblées, pour votre information, nous avons augmenté exponentiellement la coopération avec les parlements européens. Ils viennent très souvent à nos réunions, ils participent à notre mission. Nous avons tous les groupes des parlementaires, des europarlementaires qui traitent des questions liées à la Méditerranée. Ils sont tous sur notre liste mail, ils viennent à nos réunions et c'est un développement positif. Et cela est important. Donc cela aide à ce qu'ils voient ce que nous faisons. Ce qui pourrait être aussi une expérience positive et une idée positive. Sénateur Amoroso et moi-même, on a pris conscience de cela à Rome. On a rencontré le président Crassidi. C'était de nommer le nouveau chef de la délégation italienne de l'APM. L'Italie a décidé d'avoir la même délégation pour l'APM et pour l'Assemblée parlementaire de l'UPM. Donc, cela facilitera et permettra une meilleure compréhension entre les deux. C'est ce que je sais pour l'instant de leur part. Est-ce que vous voulez dire que, à l'avenir, avec ce processus, est-ce que cela veut dire que les deux organisations deviendront une organisation ou est-ce que vous voulez simplement renforcer la coopération entre ces deux organisations ? Avec des budgets séparés, comment est-ce que vous concevez cela? Quelle est l'idée? Est-ce que si vous me dites que dans 5 ans, ça ne deviendra qu'une seule entité avec un budget commun? Ou est-ce que ce sera de la coopération entre les deux? Quelle est la position? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer cela? Merci beaucoup. La proposition de l'APM, parce qu'au Moyen-Orient, nous pensons à l'avenir, nous voyons vraiment à long terme, d'ici à une centaine d'années. Alors pour l'instant, les deux assemblées sont séparées. Nous avons des secrétariats séparés, nous avons des budgets séparés. La question est la suivante. Peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait être utile d'avoir un secrétariat pour avoir une harmonie et des activités complémentaires. Mais à ma connaissance, il y a certains pays qui sont opposés et qui veulent deux assemblées séparées, deux budgets séparés et deux secrétariats séparés. Nous pouvons faire beaucoup de projets ensemble. Pourquoi a-t-on besoin de cela? Peut-être que demain, vous voudrez coopérer avec d'autres organisations. Et ça va. Pourquoi a-t-on besoin de donner la priorité à cette organisation? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'APM réagissait simplement à une proposition qui est venue du Parlement européen et qui est venu de la présidence de l'UPM, disant qu'il voulait fusionner. La PAM a dit non, l'APM a dit non. L'APM non, a dit non à l'époque parce que, je vous donne un exemple. Si on parle, par exemple, des fonds pour le développement et l'investissement dans la région de la Méditerranée, il y a eu une proposition qui venait du président Sarkozy, si vous vous souvenez, de créer la Banque méditerranéenne d'investissement et la Banque méditerranéenne de développement. L'Allemagne, la Pologne, la Suède ont voté contre. Ils ont dit, nous ne voulons pas cela. Notre priorité est l'Europe de l'Est et la Russie. L'APM, avec le soutien de l'Italie, des gouvernements français, italiens, espagnols, et je crois à l'époque, l'idée était de retirer cela de la discussion européenne parce que l'Allemagne a la possibilité de faire un veto. et de d'amener cela au G7 où la discussion est plus ouverte. Et on a donc fait cette demande, Banque européenne d'investissement, avec le Maroc, la Jordanie, la Tunisie, 2,4 millions d'euros par année pour des investissements de soutien d'infrastructures. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un danger d'aller de l'autre côté. Les pays du Nord peuvent dicter un programme qui n'est pas nécessairement dans l'intérêt de la Méditerranée, des pays de la Méditerranée. Je crois que Marco était impliqué dans cela. Permettez-moi juste de dire quelque chose par rapport à cela. L'intervention de mon collègue résume l'idée. Une chose, c'est une question administrative, d'avoir un secrétariat unique pour les deux organisations. Et une autre chose, c'est la question politique. Ça veut dire que l'APM d'un côté et l'UPM de l'autre côté ont des mandats différents. Les présidents des pays du nord de l'Europe donnent une nouvelle dimension, une nouvelle perspective à l'UPM. Et donc, l'idée dans cette proposition, c'est d'avoir un secrétariat unique pour des questions administratives. Et les deux organisations auront leur propre objectif, leur propre travail, et ça serait séparé, serait complètement séparé l'une de l'autre. Voilà, merci.
Alors, à nouveau sur le même sujet, c'est juste pour une meilleure précision, hein, parce que d'abord sur le Maroc, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui aurait fait la proposition, je reviens un petit peu sur la souche, c'est pas le Maroc, c'est un responsable marocain qui avait lâché d'une manière, je sais pas, innocente ou non innocente à l'époque, et puis ça a fait l'objet d'une réaction immédiate au niveau de notre assemblée, et j'épargne la suite. Donc le Maroc n'a jamais exprimé officiellement la proposition de fusionner les deux assemblées, que ça soit très clair. J'insiste que ce que fait notre assemblée depuis qu'il a été créé, son évolution, sa place aujourd'hui aux Nations Unies, sa place aujourd'hui dans la région est due au fait que son travail est fait d'une façon saine et qu'il travaille réellement sur les problèmes concrets de la Méditerranée, qui sont certes complexes, mais il travaille dessus. Il travaille et il évolue. Nous avons malheureusement une divergence d'intérêts avec certains pays du nord de la Méditerranée. Il y en a qui ne sont pas concernés par l'immigration. Alors que aujourd'hui, l'un des premiers problèmes auxquels nous faisons face, c'est l'immigration. Il y en a qui ne sont pas concernés par le terrorisme, etc. Donc chacun a ses problèmes. Donc, c'est pour ça que j'insiste, il faut faire attention au côté purement politique. Le côté administratif, il ne pose aucun problème. Pour moi, il ne pose aucun problème. S'il faut faire un même secrétariat pour avoir une synergie au niveau du secrétaire général, au niveau des fonctionnaires, etc., ça ne peut être que bénéfique pour les deux parties. Mais il faut continuer à marquer la différence entre l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, dont la naissance est complètement différente de la genèse de la naissance de l'Union pour la Méditerranée. Et juste pour rappel, l'APM a été créée et née pour pallier à un besoin, répondre à un besoin de diplomatie parlementaire du bassin méditerranéen. L'UPM a été créée à l'époque parce qu'il y avait 100 milliards d'euros à la clé pour venir chercher des projets dans les 100 milliards d'euros qui avaient été proposés ou mis à disposition des pays concernés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas combien de millions d'euros on est depuis toutes ces années-là. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que la différence soit bien, bien marquée l'APM reste l'APM, l'UPM reste l'UPM, nous lui souhaitons tous les succès. Nous pouvons avoir un secrétariat commun parce que ça permet de nous rapprocher. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas un amalgame, parce qu'aujourd'hui même, il y a toujours un amalgame. On confond toujours aujourd'hui l'Union pour la Méditerranée avec l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Donc il faut faire très attention, tout en étant parfaitement d'accord sur le côté technique, côté administratif, qui ne pose aucun problème. Merci.
Thank you, Olu. There is a lot of confusion, as you can imagine, on that. Sometimes.
Oui, il y a beaucoup de confusion. Parfois, je reçois des messages pour visiter, par exemple, les nouveaux bureaux à Rome. Là, vous parlez d'autre chose, mais cela vient du Parlement européen. On doit clarifier les choses, et c'est une opportunité pour notre bureau de le faire. Oui, je veux poser une question. Je vais ajouter quelque chose, plutôt. Je pense qu'on n'a pas besoin de ce processus. On peut rencontrer les personnes de nos organisations pour des réunions. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'organisations parlementaires et qui, pas à pas, je crois que l'APM a créé une bonne position. L'APM a maintenant une position qui fait en sorte que de nombreuses organisations veulent travailler avec elle. Et pour moi, c'est mieux si on pouvait trouver le moyen de collecter des fonds pour aider certaines zones, certaines régions. Cela ne veut pas dire qu'on va créer une banque de l'APM. Mais on peut voir, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait créer des contacts avec des fonds. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver des lieux d'investissement. Parce que maintenant, si on fait des efforts pour voir comment est-ce qu'on peut coopérer avec celui-ci ou celui-là, d'accord, au final, si je suis l'un des secrétaires de ce forum de l'APM, lorsqu'il y a un autre forum, une autre organisation, pour moi, c'est comme si il y avait quelqu'un qui a plus de pouvoir que cela. Et je ne crois pas que c'est une bonne chose. Le fait de se réunir deux fois par année, s'il veut faire une réunion deux fois par année pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, des projets ou autre chose, ça va. Mais de commencer à dire que nous avons le même secrétariat, etc., d'après moi, je crois que étape par étape, on peut se retrouver plus petit. Et on peut être petit et on se sent grand, on essaie d'atteindre des choses parce qu'on se sent grand. Mais je crois que, et je sais, j'ai parlé avec beaucoup d'organisations. Et j'ai parlé avec l'ONRA, j'ai parlé avec l'UNEPS, avec beaucoup d'autres organisations. Ils veulent trouver, ils essaient de trouver des organisations comme celle-ci, avec lesquels ils peuvent réaliser des choses, pas seulement être impliqués dans des questions politiques. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, merci. Votre point de vue est très clair et je pense que cela reflète vraiment l'opinion de nombreux d'entre nous. C'est important de contrôler, de coopérer, mais quand même de maintenir l'identité de l'APM, évidemment. Alors maintenant, avec votre accord, je vais passer à la prochaine étape, mise à jour quant à la consolidation et la coopération avec les bureaux régionaux de l'APM. Allez-y.
Mon collègue aimerait prendre la parole. Il y a une autre proposition de poursuivre avec le point suivant. Étant donné que nous avons 10 minutes encore, et je voudrais de l'arabe, un moment, s'il vous plaît. J'aimerais vous montrer. J'aimerais vous montrer, je répète, quel est l'intérêt de réunir ou de mettre ensemble les deux assemblées, le APM et l'OPM, pour ce qui est cette question. Elle n'était pas en le mois de septembre dernier dans l'ordre du jour de notre réunion. Le fait d'avoir un secrétaire général d'Italie, on n'en a pas parlé dans cette occasion de réunir les deux, et on n'a pas pris de décision là-dessus. Et nous avons une voix à dire à ce propos. Ce qu'on a fait lors de cette réunion, on a parlé d'un secrétariat indépendant, mais on n'a pas parlé de mettre ensemble un seul secrétariat. Nous avons également parlé des normes internes de ce secrétariat qui devra être fait. Avant l'Assemblée générale de l'Union pour la Méditerranée, il y aura une réunion au cours de laquelle on pourra discuter quelles seront les différentes étapes vers cette création d'un secrétariat général. Ils seront des sujets qui devront être discutés entre nous-mêmes et le secrétariat, le secrétariat. Nous avons envisagé une réunion mixte pour débattre ensemble ces questions, et notamment cette question d'un seul secrétariat. Merci, merci. Vous êtes également membre d'une délégation. Merci d'avoir bien voulu nous faire part de cette information. Nous avons été invités par le Parlement égyptien au Caire. Merci. Donc, pour votre prise de parole. Il faut passer au point suivant sur parler. Spinola, mais voulez-vous un break, une pause? Oui. Si vous voulez, voulez-vous une pause?
Tout le monde est prêt? Alors, on peut conclure la discussion concernant la coopération avec les autres parlements régionaux de la région euro-méditerranéenne. Nous avons conclu les discussions concernant la coopération avec le Parlement et l'Assemblée de l'UPM. Et dernière chose, Président Rogan et moi-même, nous avons, avec le secrétariat général de l'UPM, nous avons donc du côté intergouvernemental et nous avons discuté toutes les propositions des gouvernements de l'UPM pour travailler avec nous sur un événement conjoint. Mais maintenant, on attend leur retour. L'idée, c'est que nous savons qu'ils vont organiser quelque chose en Égypte. Et nous avons planifié, nous aussi, quelque chose en Égypte avec l'OMC. Donc, on s'est dit, si vous faites quelque chose et que nous faisons quelque chose aussi, eh bien, nous pourrions le faire ensemble pour être plus efficaces et ajouter de la substance aux discussions. Alors maintenant, je vais passer au point numéro 4, le travail de consolidation du Palazzo Spinola. Ceux qui ne sont pas familiers avec cette question, en 2014-2015, nous avons, après la rénovation, première rénovation du Palais Spinola, nous avons eu des pierres qui se sont détachées de la façade, du balcon et les volets des fenêtres. L'un des volets est tombé carrément dans la rue. Nous avons donc fait des interventions de base avec l'aide du gouvernement, l'autorité responsable du bâtiment, mais ensuite la situation s'est dégradée. Il y a eu des infiltrations d'eau à partir du toit et nous avons ensuite commandé travail de rénovation avec un architecte qui a en fait fait un diagnostic presque au rayon X du bâtiment et le bâtiment a été déclaré comme non sûr pour les personnes à l'intérieur comme pour les personnes à l'extérieur. Nous avons été en contact avec les autorités, avec la personne responsable, notre homologue, le ministre des Affaires étrangères Victor Grec de Malte, un homme très sympathique, très efficace. Et finalement, il y a eu un certain nombre de propositions pour une accommodation temporaire qui allait commencer à partir de février. Je vous montrerai ce qui a été proposé afin que vous ayez vraiment un aperçu de la situation.
You can see that, okay. This is the one. Okay, go ahead. So, there was a misunderstanding.
Il y a eu en fait un malentendu parce que la personne qui a proposé le bâtiment, nous a dit que les bureaux étaient prêts. On nous a proposé Mirabilis, des espaces de bureaux, mais il y a eu un délai quant à la construction. On m'a informé que en fait, on est allé au mauvais endroit.
The premises are there.
Les lieux sont là. C'est en fait un site industriel à Malte. Non, on a déjà clarifié cela. C'était le bon édifice, le bon bâtiment, mais il y a eu un problème quant au l'accompagnement. Je ne sais pas si vous avez été accompagné par quelqu'un du ministère, mais en tout cas, ça a été un malentendu. Ça n'a pas été la preuve qu'on a fournie au secrétariat de l'APM. Évidemment, je sais que nous retournons vers la première option, mais des lieux temporaires ont été trouvés, un lieu temporaire a été trouvé. Permettez-moi de terminer. Alors, le ministère s'est excusé, il ne savait pas que le bâtiment n'était pas prêt. Alors, si vous m'aviez permis d'inviter avec moi le directeur général du ministre des Affaires extérieures, je suis persuadée qu'il serait en mesure de répondre à ces questions, mais comme je n'ai pas eu votre permission, eh bien, j'attends de voir. Je crois que ce serait très utile d'avoir la personne qui est en charge de ces questions. Alors, permettez-nous juste de présenter, et ensuite vous aurez l'opportunité de prendre la parole, d'accord? Parfait. Donc, il s'agit du premier bâtiment qui a été proposé. On est allé visiter les lieux avec quelqu'un du gouvernement. Ils se sont excusés parce qu'il y a eu un malentendu. Le bâtiment proposé n'était pas prêt. Et voilà ce qu'on a visité. Ensuite, parce que ce bâtiment n'était pas disponible, on nous a proposé Smart City. On nous a proposé ce bureau. C'était une salle unique qui était utilisé auparavant comme un call center. Comme vous pouvez le voir, ce n'était pas l'idéal, ce n'était pas la solution adaptée à nos besoins pour le travail du secrétariat. On les a remerciés, mais on a dit que ce n'était pas ce dont nous avions besoin pour travailler. Il y a eu ensuite une autre proposition, celle-ci, qui est en fait la plus problématique de toutes. On a discuté aussi de cela avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères. Je l'ai rencontré en avril. Pourquoi ce bureau est-il problématique? C'est joli, mais comme vous pouvez le voir sur cette photo qui a été prise en présence de responsable du ministre des Affaires étrangères, ce bureau a été abandonné en toute hâte par l'organisation précédente. Et ils ont tout laissé, tel quel. Il y a un message écrit. Et voilà, l'organisation STK Malta. Et cette organisation a été identifiée. Alors, il y a eu 18 mandats d'arrêt internationaux émis contre cette organisation pour délits de blanchiment d'argent à hauteur de 1 milliard d'euros. Et pour cette raison, en collaboration avec le directeur grec, nous nous sommes mis d'accord que cette visite n'a jamais eu lieu pour justement éviter un grand embarras pour l'APM. Voilà. Le directeur maltais nous a remercié d'avoir attiré son attention sur cette question parce que les lieux sont toujours vérifiés auparavant par tous nos agents de sécurité et ils ont donc découvert que ce bureau appartenait à cette organisation. Finalement, il y a 3 semaines, nous avons reçu ce bureau qui nous a été livré. Vous pouvez voir, il y a 2 bureaux au centre de business Aragon. C'est très beau, c'est très joli, c'est très propre. Il y a aussi contrôle de sécurité excellent. Nous avons donc installé notre service administratif, soutien administratif. Ce que je voulais souligner ici, c'est que dans l'accord entre Malte et l'APM, il est spécifié que le gouvernement de Malte allait mettre à la disposition de l'Assemblée un espace de bureau pour ses activités administratives. Alors maintenant, nous avons une question. Nous avons le bureau, mais, et je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais nous n'avons la possibilité de travailler. Nous avons travaillé pendant un an dans des lieux divers. Nous avons de nombreux bureaux régionaux. Le collègue qui travaillait auparavant à Malte, puisqu'il n'a pas reçu sa carte de résidence, ne veut pas être migrant illégal ou clandestin. Nous avons donc déménagé ces personnes à d'autres bureaux régionaux. Nous avons un certain nombre de bureaux régionaux parce que l'APM est très décentralisée. L'APM n'a pas de bureaux centralisés. Nous avons en fait un réseau de bureaux régionaux, à part du centre administratif. de cette unité qui se trouve à Malte. Nous avons à New York des bureaux, à Genève, à Vienne, à Bucarest et au Caire. Et donc nous avons été en mesure, avec une perturbation minimale des bureaux, essayer de pouvoir donner le permis de résidence à d'autres membres du personnel qui ont pu travailler efficacement. Et ça, c'est le problème que nous avons soumis au ministre des Affaires extérieures. La question a été discutée lors de la session plénière et nous avons dit que, au moins, à moins que tout le monde qui travaille reçoive une carte d'identité, je ne peux pas avoir une personne à Malte et une autre personne qui serait là sans permis ou sans carte d'identité. Donc ça, c'est la situation pour ce qui est ce bureau. Moi-même, j'ai été le 12 septembre présent. J'ai demandé personnellement pourquoi est-ce que vous ne donnez pas la carte d'identité à notre membre de personnel, à nos membres du personnel. Ils ont dit nous en donnons une. Et j'ai dit pourquoi vous ne les donnez pas aux autres. Ils ont dit « Nous ne savons pas ». Les personnes responsables du protocole m'ont dit « Je ne sais pas pourquoi les autres ne peuvent pas recevoir la carte d'identité ». Je dois souligner ici que lorsque, à l'époque, les cartes d'identité ont été demandées, chaque membre du personnel de l'APM avait une adresse valide à Malte. Une fois qu'ils ont quitté le pays ou l'appartement, bon, c'est autre chose. Mais voilà donc la situation au jour d'aujourd'hui. Donc, nous savons qu'une fois que le travail au Palazzo Spinola, nous savons que ces travaux vont durer 2 ans. Donc, nous essayons de trouver la meilleure option, quelle serait la meilleure location, le meilleur lieu pour notre personnel. Comme vous pouvez le voir, l'APM est très affectée par cette situation. Nous faisons beaucoup de coopération. Mais il y a donc cette question, ce problème des cartes d'identité. Et sur la base des cartes d'identité, la gestion de l'APM a donc décidé qui allait où, compte tenu du fait que l'APM n'est pas la même qu'en 2016, avec un petit secrétariat. Nous avons maintenant un système régional vaste qui aide beaucoup et donc c'est très efficace. Merci beaucoup. Comme vous l'avez expliqué aux collègues, le gouvernement de Malte loue depuis le 19 juillet ses lieux temporaires à St. Julian's, comme vous l'avez désiré, comme vous l'avez demandé. Vous avez préféré un lieu qui était plus près du Palazzo. On a donc proposé St. Julian's. Et comme je l'ai écrit ici, j'ai écrit un email qui date de avril. Vous l'avez accepté, ce lieu temporaire, ces bureaux temporaires, et vous étiez satisfait par ces bureaux. Et j'ai été informé aussi du fait que les clés électroniques ont été recueillies en septembre dernier et que le staff a été relogé, on va dire. Jusqu'à maintenant, aucun protocole d'entente n'a été signé par les deux parties. Le gouvernement de Malte a donné, en fait, comme un geste de bonne volonté, les clés électroniques à ces bureaux très chers, même si aucun protocole d'entente n'avait été signé. Et comme vous pouvez voir, si vous vous rappelez à partir de la lettre que nous avons envoyée au président honorable, j'aimerais partager une copie à tous les collègues. Le ministre nous a demandé de signer ce protocole d'entente. Je crois que c'est très important. À part cela, et j'aimerais aussi souligner que le ministre a essayé de vous contacter, vous, en tant que le secrétaire général, pour organiser une réunion. Jusqu'à maintenant, beaucoup de mois sont passés et aucune réunion n'a été organisée. J'imagine que tout le monde a des horaires très chargés, mais je ne pense pas que c'est très respectueux lorsque vous avez quelqu'un qui vous demande une réunion et le ministre des Affaires étrangères demande une réunion et la réunion n'a jamais lieu. Nous voulons résoudre cette situation. Mais évidemment, cela doit être quelque chose qui vient des deux côtés. En ce qui concerne les cartes d'identité, comme vous le savez, avant d'émettre une carte d'identité, et nous avons besoin d'une adresse fixe. La seule personne qui a cette carte d'identité a été la seule personne qui a respecté les lois. Et nous devons suivre les lois, respecter les lois afin de pouvoir garantir l'immunité diplomatique. Et donc, nous n'avons aucun problème avec le fait que des organisations internationales soient à Malte tant et aussi longtemps qu'ils respectent les règles. Il faut y avoir, la personne doit avoir une adresse fixe à Malte afin que nous puissions émettre une carte d'identité. La seule personne qui a respecté cette règle est M. Boukachoul Bouchra. Désolé, Chizeux, je ne prononce pas bien son nom. Et évidemment, il nous a donné ce que nous avons demandé et la carte d'identité a été émise sans aucun problème. La question ici, ce n'est pas que le pays ne veut pas émettre des cartes d'identité, c'est plutôt qu'il y a des règles que l'on doit respecter et dans la mesure où ces règles ne sont pas respectées, ce qui a été le cas par un grand nombre du personnel, nous n'avons pas pu émettre les cartes. Et bien sûr, nous voulons résoudre ce problème parce que nous sommes contents d'accueillir l'APM dans notre pays. Nous honorons nos obligations et nous allons continuer à le faire, même pour les coopérations à venir. Dans cette lettre du ministre, vous pouvez voir que la dernière partie de cette première partie de la lettre, le ministre conclut, veut étendre l'accord entre l'APM et le gouvernement qui va expirer en 2019. Alors notez également que les lieux ont été loués pour 3 ans. Nous les avons loués avant ce protocole d'entente, avant la signature de ce protocole d'entente. Donc gardez à l'esprit que des milliers d'euros sont payés avec l'argent des contribuables et on aimerait avoir un secrétariat efficace qui travaille sur ces lieux. Parce que voilà, c'est ce que tout le monde désire. Merci beaucoup. Alors permettez-moi d'intervenir. Vladimir, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vladimir est l'un de notre membre du personnel. On l'a recruté. Il est venu à Malte. Il a loué un appartement à Malte. On a demandé la carte d'identité. On a donné l'adresse. Quelle adresse a-t-il donné? Vladimir, pouvez-vous donner l'adresse que vous avez donnée? Microphone, s'il vous plaît. C'était Sliman. Je ne me souviens pas exactement le numéro de la rue, mais dans le formulaire qu'on a rempli, c'était l'adresse indiquée à Matt. Merci beaucoup, Vlad. Donc, après 3 mois, avant qu'il obtienne avant l'expiration de son visa pour l'Union européenne, il a dû partir parce qu'il n'a pas pu rester plus longtemps. On m'a informé que M. Vladimir, avec un accord daté d'octobre 2017, l'APM a demandé l'émission de cette carte d'identité et il a dit flat 10, appartement 10, rue Lady Slimane. Et on vous a envoyé une notification du 19 février. La police a été informée de l'adresse et a vérifié que personne n'habitait à cette adresse fournie. C'est pour cela que nous n'avons pas émis de carte d'identité. Lorsque l'adresse est erronée ou alors que personne n'habite à cette adresse, nous ne pouvons pas émettre des cartes d'identité parce que c'est un processus. Et je répète, nous n'avons aucun problème avec d'autres organisations internationales. Tout le monde a ses cartes d'identité, tant et aussi longtemps qu'ils sont en mesure de fournir une adresse valide et réelle pour que l'on puisse émettre cette carte d'identité. Donc, on peut parler plus tard si vous le désirez. On peut vérifier les informations que vous avez fournies. Mais en tout cas, ce que j'ai cité ici, l'adresse que vous avez fournie, que j'ai cité ici, a été une adresse où personne n'habitait. La police est allée vérifier elle-même. Oui, mais il y a un contrat aussi que j'ai signé et je pourrais vous fournir ce bail. Il y a eu certaines questions avec le propriétaire. Il y avait aussi une certaine arnaque. Il y avait des activités criminelles qui se déroulaient dans cet appartement ou appartement du voisinage, et donc la personne à qui j'ai envoyé le contrat, finalement, en fait, le 23 décembre 2017, j'ai donc quitté peu après, je suis allée à Bucarest. Eh bien, ça me ferait plaisir de vous aider dans cette question, et donc, en fait, par rapport à ce contrat, j'ai eu certains problèmes. Alors, j'ai une liste complète, monsieur le secrétaire général, qui justifie de toutes les raisons pour lesquelles les demandes de carte d'identité des autres personnes ont été rejetées. Un autre exemple, quelqu'un a fourni une fausse adresse, d'autres par exemple n'étaient même pas à cette adresse, ne vivaient pas à cette adresse, et la seule personne qui a obtenu réellement sa carte d'identité a été cette personne que j'ai citée tout à l'heure. Et donc, je peux rencontrer bien sûr toutes ces personnes, les directeurs assistants, et nous pouvons examiner chacun des dossiers. Nous sommes bien sûr disposés à aider, mais je ne sais pas, tout cela ne s'est jamais produit avec d'autres étrangers qui travaillent dans notre pays. Voilà, merci beaucoup. Donc cette histoire des cartes d'identité, ça se passe depuis 2015 quand même. Si vous regardez dans ces documents, nous avons donc le ministre des Affaires étrangères. Nous n'avons jamais reçu aucune explication quant à cette question. Nous n'avons reçu aucune réponse non plus à notre note. Donc nous ne pouvons pas continuer cette histoire. Et un dernier point, mon collègue du ministère des Affaires étrangères, si mon collègue serait ici, était ici, je suis persuadée qu'il pourrait répondre à vos questions. Moi, je suis simple députée, je ne peux pas répondre dans cette question, mais nous sommes disposés à aider toutes les personnes qui veulent installer secrétariat et travailler à partir de Malte, et nous pouvons assurer que nous aimerions aussi poursuivre une coopération présentée future. Bien sûr, ça a été un obstacle, mais nous allons le résoudre. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai indiqué moi aussi au ministre des Affaires étrangères, Miss Karen Mam de votre bureau, elle a dit, le secrétaire général, on a demandé bien sûr l'aide, et elle a dit, on ne peut pas s'impliquer dans cela, c'est à voir avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai contacté ce ministère, mais il est ici à l'extérieur, donc si... Alors, on a dit qu'on était prêt à aller à La Valette, à une réunion. Et ces questions, ces problèmes ont été soulevés directement avec Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, à Paris. La même réunion, les mêmes réunions ont déjà été organisées par le passé avec le ministre des Affaires étrangères, par de nombreuses personnes ici autour de cette table, au sujet de ces mêmes questions. Si le ministre désire organiser une réunion, ce serait un plaisir pour le secrétariat et pour le ministère de discuter de ces questions. Malheureusement, il s'agit d'une longue histoire, et lorsque le ministre à Paris m'a dit la même, a transmis la même liste, je pourrais donner une réponse pour chacun des noms. C'est pour cela qu'après 3 mois à Malte, certains membres du personnel, ceux qui n'étaient pas citoyens de l'Union européenne, ont dû quitter le pays. Il est clair que si une seule personne, Bouchra, a reçu cette carte d'identité et pas les autres, bien sûr, cette personne ne peut pas aller seule à Malte. Elle doit rester avec le reste de l'équipe. Mais je peux vous assurer que tout le monde avait une adresse valide, et comme je l'ai indiqué. Alors, quel est le problème, en fait? Quel est le problème, quelle est la difficulté pour donner une adresse valide et réelle? Parce que, permettez-moi juste de dire cela, le problème a été que ce n'était pas des adresses fixes, mais il y a des contrats pour tout le monde, tout était là. J'ai soulevé déjà cette question, vous avez répondu gentiment, voilà la situation aujourd'hui, nous allons examiner cela à l'avenir. Bon, j'espère que nous aurons le temps d'en discuter plus tard. Ce qui est important, c'est que maintenant, nous avons un bureau de 45 mètres carrés. Cette question des cartes d'identité doit être résolue. C'est 87 mètres carrés, comme demandé. Bon, moi, je parle de l'espace de travail, l'espace utile. Alors, c'est la question que je voulais soulever. Voilà. Il s'agit aussi d'une autre question plus vaste. l'accord est du corps. J'ai eu une réunion il y a 2 jours à Malte avec le conseiller juridique de l'APM, qui vous connaît très bien d'ailleurs et qui est un ancien membre. Oui, nous sommes un petit pays, on se connaît. Alors, je peux vous dire, à titre d'exemple, il veut rencontrer l'avocat général de Malte parce que dans cet accord, il y a certains problèmes, certains points qui ne sont pas en harmonie avec les normes internationales. Et pour cette raison, l'avocat général a déjà fait la demande d'une réunion. Et à titre d'information, juste très rapidement,
OK. I don't know if you can read it.
Je me demande si vous arrivez à lire le diapo suivant. Qu'est-ce que le gouvernement de Malte met à la disposition de l'APM pour les services et pour les services administratifs? Il s'agit d'une histoire qui date depuis longtemps. Au point de vue de la TVA, il y a plusieurs législations différentes pour ce qui est la TVA. Il y a ici plusieurs personnes ici présentes qui connaissent comment ceci se passe au point de vue de la TVA. Nous avons souvent dit à nos collègues qui sont du département qui s'occupe de la TVA pour ce qui est l'APM et les directives de l'Union européenne. L'organisation ne doit pas payer la TVA. Selon l'article 6 de l'accord, la législation sur la TVA, on dit que selon la loi de Malte, elle peut être modifiée. Mais de toute façon, ceci ne peut pas être modifié sans l'accord des deux parties. Et voici la question concernant la TVA et l'accord le 9 décembre sera périmé, mais il faut souligner qu'il y a une discrimination pour ce qui est les citoyens maltais. Ils ne peuvent pas jouir de la bénéfice de l'APM. Il s'agit d'une discrimination et ceci n'est pas permis selon la législation de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Les citoyens maltais ne jouissent pas l'immunité. Ils peuvent être objet de pression et peuvent être présenté en cours de justice et les Maltais qui travaillent pour l'APM sont des fonctionnaires comme les autres, mais il faut discuter ceci avec le procureur général. Voici des questions de ce genre qui est essentielle. Elle est plus importante et je peux vous promettre que de ma part, pour ce qui est les notes collectées avant le mois d'octobre, il n'y avait pas de notes précédente. Je peux vous dire que moi-même, j'ai fait la collecte, j'ai réuni toutes ces notes. Et ce matin, nous avons reçu une nouvelle Et nous avons pu réunir toutes ces notes. Le ministre demande d'éclaircir, de bien justifier cette question et nous répondons à toutes les questions. Nous travaillons avec le système régional qui travaille bien et lorsque cette question sera résolue, nous pourrons poursuivre. Nous avons toutes les preuves nécessaires. Une autre question maintenant qui se présente sur les recommandations. Et la validité de l'accord. Dans ce rapport des experts qui a été distribué à toutes les délégations en 2016, et ce rapport a été demandé qui présentait les activités politiques, économiques et sociales. Et parmi les différentes recommandations faites par le bureau et dans le rapport indépendant adressé à l'Union européenne, ainsi que il faut vérifier s'il y a d'autres pays qui souhaitent accueillir l'APM et tous présenter les meilleures conditions au point de vue fiscal et au point de vue de la résidence pour l'APM, afin que l'APM puisse décider quel sera le meilleur endroit. Donc, il s'agit d'un procédé entrepris par d'autres organisations, notamment les Nations Unies. Il faut vérifier alors quels sont les pays, tous inclus, Malte inclus, quels sont les pays intéressés à accueillir l'APM, qui puisse offrir les meilleures conditions au point de vue des bâtiments, pour les services. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est demander à tous les pays en disant que nous réévaluons les intérêts de l'APM au point de vue matériel et nous demandons à tous qui seraient intéressés à accueillir l'APM comme un appel d'offres. Et tout sera envoyé à tous. Il s'agit d'un procédé auquel on recourt toutes les organisations internationales. Suite à cette réunion de bureau, nous pourrons réévaluer la position stratégique de l'Assemblée. Si cela vous intéresse, il y aura... vous pourrez présenter votre proposition. Ceci est en ligne avec ce qui a été décidé l'année dernière. À l'époque, il y avait quelqu'un qui a annoncé que le contrat serait bientôt périmé. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une période pour pouvoir réunir les différentes propositions et décider. Il s'agit presque d'une compétition avec des propositions différentes. Selon la loi de la concurrence, voilà le procédé. Si voilà vous avez bien présent, on a bien présenté la situation actuelle de ce procédé. Nous devrons étudier les propositions et faire une étude, celle de Malte inclus. Je voudrais ajouter que la PM de 2019 sera sans doute différente de celle de 2017. En 2017, la PM était encore un organisme qui se retrouvait tous les deux ans, mais on ne savait pas au juste quelle serait la voie à suivre. C'était un peu bizarre à l'époque, mais tout au long de ces deux années, le APM a grandi au point de vue, pas seulement géographique, mais au point de vue des actions. Voilà une conséquence aussi du printemps arabe et les migrations massives, d'où l'APM a conquis une image de compétence. Elle peut devenir une organisation leader parmi d'autres associations parlementaires. Au point de vue politique, il nous semble que nous avons bien établi un partenariat avec le Conseil de sécurité des Nations Unies contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité a choisi l'APM pour travailler en partenariat contre l'ISIS. Et la raison pour laquelle l'APM a été choisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que nous sommes la première organisation à répondre aux problèmes de terrorisme. Nous sommes aussi une organisation qui se trouve au milieu du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Europe. Ceci nous a été dit par le subsecrétaire général des Nations Unies. Nous a dit que l'APM a été reconnue étant donné qu'au point de vue géopolitique, elle a une place centrale. Nous connaissons bien ce monde de cette région géographique. Nous sommes en Israël, en Palestine, dans d'autres pays, et nous avons pris la parole d'une façon positive à Genève et pas comme en titre rhétorique. Nous pouvons travailler en équipe avec la Banque mondiale, la Banque européenne, l'Organisation mondiale du commerce, car nous sommes un partenaire qui nous pouvons investir dans la région et résoudre des problèmes. Un exemple. L'RPND a des problèmes financiers. de millions. Et nous souhaitons que le Parlement adopte une déclaration pour pouvoir, au-delà des compromis et le Parlement européen a dit qu'il peut investir avec 800 pour résoudre le problème du Liban. Mais le Parlement libanais avec tout un comité spécial a signé un accord avec la banque, 800 millions. Ceci représente la stabilité, représente réduire cette tension existante. Il s'agit aussi d'un privilège pour nous. J'ai participé à une réunion de l'OCDE à Paris et elle a décidé d'établir un partenariat tel qu'avec l'OMC. Et voilà, la PM bien engagée dans des questions globales à l'échelle mondiale. Avec notre budget, nous avons maintenant un budget qui nous permet mieux travailler. Nous recrutons également de personnel. Nous avons une fonctionnaire de Tunisie. Et nous avons besoin de ceux qui parlent l'arabe, le français et l'anglais pour renforcer nos services régionaux, pour être à la hauteur de tous nos compromis. Il nous faut assurer que les travaux en cours puissent se poursuivre. C'est pour cela aussi que nous avons un bon système administratif. Nous pouvons lancer des programmes auprès des universités. Pendant un an, nous avons eu la coopération avec le programme Erasmus qui s'est achevé. Maintenant, nous l'avons repris. Ceci est intéressant, le lien avec des universités, notamment une université colombienne qui nous a offert 800 000 euros pour l'Égypte et une Suédoise qui souhaite recevoir 10 étudiants d'Israël pour qu'ils puissent y travailler. C'est le rôle la Chine, comme on connaît la Chine aussi, utilise les universités. Il y a un accord entre Sanalermo et San Marino, à San Marino et Shanghai, pour travailler ensemble avec la Chine et pour que en Chine puisse connaître nos programmes. Lorsque la Chine s'engage, ceci représente des montants d'investissement énormes. Ceci pour vous montrer comment ceci a lieu maintenant avec tous les partenaires. Le Parlement européen joue un rôle maintenant très important avec notre Assemblée. Il y a un membre du Parlement européen qui participe à nos séminaires, à nos conférences et aussi dans des actions de suivi en Bosnie, par exemple. Il s'agit presque d'un thermomètre pour mesurer ce qui se passe en Serbie. nous avons eu en l'été dernier une réunion sur le commerce. Et cette réunion, au point de vue technique, n'était pas facile. Pour ceux qui ont participé au bureau précédent, on a demandé au secrétaire général des Nations Unies, par un fonctionnaire de la Slovaquie, et qui a dit que les frontières de l'Union européenne, dans le cadre de l'Union européenne, crée des difficultés. Il a dit qu'il en avait besoin de l'APM pour créer de nouveaux investissements et faciliter le commerce et les échanges commerciaux et établir le dialogue avec la Serbie. Si vous vous rappelez bien, ceci a été la première rencontre où il y avait une forte participation de l'Union européenne avec plusieurs ambassadeurs présents. Et ceci nous montre comment ce canal parallèle peut présenter un bon avantage pour une meilleure et plus profonde participation. Je vais vous envoyer un message afin que vos gouvernements puissent considérer la réunion de Palerme, lieu le 11 novembre, qui est très haut à tout le processus de paix. Et ceci est important aussi pour le forum 5+5. La Libye est aussi invitée. Mais la participation de la Libye sera importante. Nous poursuivrons toujours nos travaux avec les Nations Unies. Et les Nations Unies nous disent que nous devons apporter l'aide à la Libye afin qu'elle puisse mieux collaborer avec les autres pays de la région, un rôle clé. C'est la voie vers le développement politique. Si on considère le programme pour 2019, il y a de plus en plus d'organisations, institutions qui souhaitent collaborer avec nous. Il y a eu une crise auparavant pour ce qui est une réunion de l'APM, étant donné qu'il faut de l'interprétation et traduction vers l'arabe et d'autres langues, ou une rencontre avec le secrétariat pour créer les conditions nécessaires pour que l'APM puisse financer et payer ses dépenses aux pays hôtes. Ceci a eu lieu dans la réunion en Serbie, au Maroc. Nous avons pu créer des conditions pour que nos parlementaires puissent discuter avec d'autres organisations. L'APM a été représentée en Indonésie dans une rencontre mondiale. Notre président s'est aussi participé dans une réunion en Indonésie pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et pour leur dire ce qui est important pour nous, l'APM. Donc, le leadership de Malte est important à ce point de vue. Et Malte peut également nous informer sur cette question de participation. Et pour ce qui est de l'Europe, et si pour tenir compte de cette participation, elle est un aspect clé. Je vais vous parler maintenant de l'aspect de finance.
En ce qui concerne cet exercice donc d'appel d'offres, évidemment, c'est dans notre intérêt, c'est aussi notre plaisir de renouveler le contrat avec le secrétariat de l'APM comme tel qu'expliqué aussi par le ministère, mais aussi tel qu'écrit dans l'article 6 qui stipule que ça pourrait être renégocié et renouvelé pour plusieurs périodes de temps. Donc, est-ce qu'on devrait s'asseoir et discuter et renégocier avant d'aller dans d'autres pays et d'attendre les soumissions? Je crois que c'est juste. Et je voulais aussi demander si c'était peut-être votre opinion personnelle ou est-ce que c'est une opinion partagée de mes collègues, parce que je ne pense pas qu'une plénière ou un vote a été effectué sur cette question. Nous n'en étions pas conscients en tant que pays qu'il y avait ce projet de soumettre des candidatures pour les pays qui étaient intéressés par l'accueil donc du secrétariat. Alors c'est quelque chose que nous allons discuter lors de la plénière l'an dernier, lorsqu'on a dit cela, on s'était dit que pendant 2018, une année jusqu'à l'expiration du contrat, ce processus de consultation allait démarrer. Mais comme le président l'a dit, pour Malte, Malte sera bien sûr un des pays avec qui on renouvellerait cette offre, cet appel d'offres, et on accepterait d'autres propositions d'autres pays afin d'avoir une matrice de comparaison et voir ce que les différents pays ont à proposer. Permettez-moi juste de dire un point de vue. Si nous avons un contrat et que ce contrat va jusqu'à la fin, et on peut en fait remettre les pendules à l'heure, chaque membre parlementaire de cette organisation pourrait remplir sa candidature pour accueillir le secrétariat de l'APM. Dans le cas de Malte, je crois que Malte ne doit pas commencer depuis le début, recommencer à zéro, parce que le secrétariat est déjà sur ce territoire. Donc le renouvellement du mandat de Malte pourrait être dans sa proposition, mais ça, on le discutera au même niveau qu'on discutera aussi les autres propositions. Merci, merci.
Quelques remarques? Et avant ça, je tiens quand même à rappeler que l'APM existe depuis 12 ans maintenant et que, indépendamment de tous ces problèmes, il faut qu'on remercie Malte pour tout ce qu'il a fait pendant ces 10 dernières années en ayant accueilli donc le siège de l'APM dans son évolution. Il est vrai aujourd'hui que nous sommes dans une étape. C'est une étape qu'il faut gérer. Il faut gérer indépendamment de ces problèmes. Je voudrais juste faire deux remarques pour ne pas trop m'étaler sur le sujet. Je propose que ce que vous nous avez montré sur ce bureau, où il y a des 18 mandats d'arrêt, où il y a un problème de je ne sais pas quoi, blanchiment d'argent, ça c'est pas nous qui le disons, c'est la justice certainement qui va dire ça. Mais que tout ça soit supprimé des archives officielles de l'APM, qu'il soit peut-être dans les archives officieuses, mais ça, ce n'est pas une bonne chose. il faut que ça soit supprimé de nos documents. Parce que vraiment ça, quand vous avez parlé ça, moi franchement j'ai eu la chair de poule. Hein. L'APM est une organisation très propre. Et il ne faut pas qu'un temps soit peu que ces mots, hein, rien que les mots, ça donne la chair de poule. Deuxième remarque, vous parlez de appel d'offres, parce que juste une remarque pour ne pas se tromper un petit peu de terme, il faut plutôt faire un appel à manifestation d'intérêt au lieu d'un appel d'offres, parce que l'appel d'offres est plus commercial. Donc une manifestation d'intérêt pour les pays qui seraient prêts à accueillir le siège de l'APM, et avec si possible aussi, compte tenu de l'évolution de l'organisation, une sorte de cahier de charge, hein, pour pouvoir donc permettre à ceux qui le voudraient de répondre à une manifestation d'intérêt. Merci.
Thank you, Senator Marbou. I said an expression of interest.
Merci. Oui, j'ai bien dit appel à manifestation d'intérêt, en tout cas c'est ce que je voulais dire. Alors permettez-moi de dire encore quelque chose concernant le budget. Désolé d'interrompre encore une fois. Sincèrement, personnellement, je ne tolère pas des allégations de blanchiment d'argent contre notre pays. Nous sommes très stricts et puisque nous sommes justement très stricts, nous avons justement un processus de diligence due. Il y a ces problèmes, soi-disant problèmes, mais ces problèmes ne sont pas causés par nous en tant que pays, mais sont causés depuis parce que les personnes ne suivent pas nos règles. Je crois que ce n'est pas juste de parler en ces termes concernant notre pays, et par respect, bien sûr, nous aimerions renouveler ce contrat parce que nous honorons nos obligations. Nous sommes honorés d'accueillir le secrétariat de l'APM ici, et je voulais conclure en disant ceci. L'APM n'a pas la plus belle localisation au sein de la Méditerranée. Ce qui compte chez l'APM, c'est ce qu'on fait le mieux, faire de notre mieux au niveau politique, pas juste dans la région méditerranéenne, mais aussi dans le monde. Il s'agit simplement d'un argument cosmétique. Nous sommes prêts, en tant que pays, de manifester notre intérêt pour accueillir encore une fois le secrétariat de l'APM, mais je crois qu'il est injuste de mettre une compétition là-dedans. Qui propose la meilleure location, la meilleure localisation et les meilleures conditions? Ce n'est pas le sujet de l'APM, mais moi, en tant que jeune politique, je ne pense pas que la politique doit se concentrer sur la localisation des bureaux. La politique, c'est ce qu'on peut faire pour faire un monde meilleur. Merci.
Je ne vous ai pas adressé la parole directement, je n'ai rien dit à Malte. Je suis jaloux pour cette organisation, je ne veux pas que dans un rapport quelconque qu'il y ait ces images et ces termes. C'est bon pour l'organisation, c'est bon pour Malte. Et je ne suis ni la justice, ni la police judiciaire pour dire qu'il y a ceci ou il y a cela. Je ne veux pas que ces termes soient dans les documents de l'APM. Et ensuite, madame, j'ai dit manifestation d'intérêt. Chaque membre dans cette organisation, après tout cela, et après avoir remercié Malte pour tout ce qu'elle a fait pendant 10 ans, a le droit, si le management de la PM le demande, à manifester son intérêt, madame, pour vous adresser à moi comme si je vous ai incriminé, comme si je vous ai dit quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi. J'ai commenté des documents. Là, je le répète, c'est pas honorable pour notre organisation de voir cela. Moi, je ne dis pas que ça existe ou que ça n'existe pas. Ça, c'est une affaire de la justice. Mais moi, je ne veux pas que des termes comme ça soient dans des documents officiels d'organisation. C'est tout. Ce n'est rien d'autre. Alors, ne vous sentez pas visé par mes propos. Deuxième chose, manifestation d'intérêt, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je ne parle pas de localisation géographique, je ne parle pas d'autre chose, d'offres financières. J'ai dit que si le management de l'APM pense qu'il y a une étape qui est aujourd'hui établie, s'il veut faire un appel, la manifestation d'intérêt pour le siège de la PM, quel est le mal? On a eu l'occasion de voter à Porto une proposition qui est déjà faite par un pays méditerranéen. Donc, ils ne vous sentez pas visé par mes propos, s'il vous plaît. Merci.
Thank you for...
Merci pour cette clarification et permettez-moi de revenir sur le budget parce que c'est important. En harmonie avec ce rapport d'experts et grâce au soutien des États membres, l'an dernier, le budget de l'APM a été augmenté de 10% d'après les recommandations. Faite par l'Assemblée et adoptée par tous. Je vais vous dire pourquoi ceci est important. Parce que si vous vous souvenez bien, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas payé leurs cotisations par le passé. Et maintenant, avec ce nouveau budget, nous avons reçu jusqu'à maintenant 737 000 euros pour l'année, l'exercice financier 2018, ce qui est suffisant pour l'APM, pour que l'APM fasse face à ses obligations en termes de coûts opérationnels et en termes de soutien pour nos activités. Et ça, c'est très important. Vous avez ici une table de mission ou mandat jusqu'à la fin octobre. Vous pouvez voir ici que notre Assemblée a été en mesure de couvrir 63 événements pendant les 10 premiers mois de notre année, dont 20 événements de ceux-ci ont été couverts par les membres des parlements, 35 événements par les membres de parlement accompagné par le staff de l'APM et 8 par le personnel de l'APM. Je voulais aussi vous donner une projection, une idée concernant l'impact financier. Si on compare à l'an dernier, à la même période, nous avons organisé Nous avons participé seulement à 50 événements sur les 63 de cette année. Donc, ça veut dire que nous avons déjà, il nous reste encore 13 événements, mais à coût réduit parce que si on utilise les bureaux régionaux, nos collègues à New York, à Vienne, à Genève, au Caire, nous sommes en mesure de couvrir beaucoup plus d'événements à moindre coût ou à coût zéro parce qu'il ne faut pas voyager. Et ça, c'est fondamental pour nous parce que cela nous donne 15% de réduction au niveau de notre budget avec aussi un avantage comparatif considérable en termes de la capacité de l'APM à être présent, à participer, à transmettre son message et aussi à faire des retours concernant ce qui s'est passé à nos parlements. Nous avons complété également l'année 2018 avec un bilan sans déficit comparé aux années précédentes. Et ceci est important. Et nous avons gardé un mois où on peut utiliser le budget. Donc, pour couvrir les dépenses, on pourra utiliser encore ce qui reste du budget pour couvrir les dépenses de janvier 2019. Et ça, c'est très important pour nous. Nous allons terminer l'année sans déficit. Et nous avons même un petit extra pour pouvoir commencer l'année 2019, 15 000, 20 000 euros pour pouvoir couvrir les dépenses. Et ça, c'est très important. Et cela montre que les choix de travailler à travers ces bureaux régionaux et à travers les représentants permanents des capitales des Nations Unies et des capitales de la Ligue arabe, cela fonctionne et cela, en fait, maintenant donne des résultats. Il y a plus de travail fait, plus d'efficacité, davantage d'exposition et à moindre coût, à moindre budget, et ça, c'est très bien. Alors, c'est donc ce que je voulais vous dire par rapport aux finances. Et je veux remercier l'Israël aussi particulièrement parce que normalement, en plus de leur quota normal, ils nous ont donné de l'argent additionnel pour pouvoir couvrir des opérations de coûts de transport, etc. Merci à tous, merci à tous, merci Israël et merci aussi à tous les autres pour votre soutien. Et je pense aussi que maintenant, on doit se concentrer sur ça. Je vais vous envoyer un message à vous tous. Vous pourrez aussi, lorsqu'il y aura ces retours concernant cette réunion de Palerme sur la Libye, il faut former la stratégie de l'APM. Le groupe 5+5 sera l'événement critique et je prépare une réunion avec le nouvel envoyé spécial pour la Syrie. C'est un diplomate norvégien qui va prendre ses fonctions aujourd'hui à Genève pour remplacer Stéphane de Bitsouga et je vais aller lui rendre visite et je vous informerai par la suite. Je peux venir avec vous en Syrie, peut-être après que vous finissiez votre réunion en Syrie, vous pouvez peut-être... Non, la réunion aura lieu à Genève, pas en Syrie. Ah, d'accord. La réunion, parce que la nouvelle personne qui va travailler pour le... Cette personne va travailler pour le bureau des Nations Unies à Genève. Et donc, d'abord, nous allons voir la manière dont cette personne travaille et ensuite, on verra quoi faire avec lui. Et j'ai pensé aussi l'inviter à notre session plénière, si possible, à Belgrade, afin qu'il puisse briefer l'Assemblée concernant ses idées, parce que l'an dernier, nous avons reçu le ministre des Affaires étrangères de Libye. J'espère que cette personne pourra participer à notre réunion à Belgrade pour nous donner des informations. J'espère que tout est couvert. Je pense que tout est couvert. Je pense que nous avons couvert maintenant tous les points de l'ordre du jour. Bilal.
Oui.
C'est vers le français maintenant, non?
Pour la Syrie. Il me semble qu'il s'agit d'une bonne idée de préparer une nouvelle visite à la région et connaître ces pays pour mieux connaître la situation. Et puis à Genève, je pourrais envoyer un message par rapport à ce qu'on avait programmé. Je me réfère à Jørgen de Norvège. Je connais son directeur et je sais comment il travaille et ce serait intéressant de savoir il a hérité de Metsoda une situation différente. Je pourrais vous faire un point de la situation et faire de façon à ce qu'il puisse participer à la réunion de Belgrade et nous présenter sa stratégie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'aspect financier? Si ce n'est pas le cas, merci, chers collègues, pour votre participation à cette réunion, votre engagement en APM. Comme vous savez, nous avons un long travail encore à entreprendre. Et en temps de la réunion de Belgrade, le 21-22 février 2019. Et avant de poursuivre et avant notre déjeuner, j'aimerais remercier aux interprètes que malgré des problèmes techniques dans les cabines avec les consoles, ils ont accompli un très bon travail.
J'aimerais remercier l'équipe de Parlement, l'équipe de relations humaines, Rita Pinkfried. Elle s'agit de toute une équipe de femmes magnifiques qui ont entrepris un très bon travail. Merci à tous et nous allons nous retrouver pour le déjeuner. Merci.